Publicité.
Attention, entrepreneurs et professionnels de la comptabilité, il est temps de transformer votre gestion d'entreprise avec Akumbago, la solution web 100% québécoise conçue pour vous. Depuis plus de 35 ans, Akumbago soutient les PME d'ici en vous offrant un écosystème complet pour optimiser chaque aspect de vos opérations. Facturation flexible, gestion des clients, fournisseurs et bien plus. Choisissez le forfait qui vous convient et bénéficiez d'un service de qualité en français depuis le Québec. Visitez dès maintenant akumba.com pour découvrir leurs solutions ou planifier une démo. Akumbago, l'allié des entrepreneurs du Québec. Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 26 avril 2024. J'espère que votre rapport d'impôt, vos rapports d'impôt sont faits et ont été envoyés. Au sommaire, cette semaine, on va à Hong Kong pour parler de la Chine et de son encadrement des entreprises de la tech. On va rencontrer chez OpenAI quelqu'un qui est responsable du développement de l'IA et qui va nous parler de ce moment spécial où ChatGPT est arrivé dans nos vies. On va parler de l'état des TI au pays et puis on va parler de responsabilité et de robots conversationnels. Sinon, il y a Catherine Dupont-Gagnon qui est avec nous cette semaine. On va aller la retrouver à la cyberconférence de CyberEcho qui se tenait cette semaine au Palais des Congrès de Montréal. Thierry Weber, lui, est présent cette semaine. Il va nous parler de voitures chinoises. Et puis Stéphane Ricoul est là pour nous faire réfléchir sur la quantité de données que nous créons. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Christophe Cohn, Mathieu Hince, Philippe Tremblay, Tom Levasseur et Charles-Antoine Fugère. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là, c'est vraiment très apprécié. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Je reviens sur deux actualités de la semaine avant de passer aux entrevues. D'abord, depuis quelques jours, vous avez probablement remarqué l'apparition des fenêtres de requêtes pour l'intelligence artificielle de Meta sur ces diverses plateformes. Je pense à Facebook, évidemment, mais également sur Instagram, sur Messenger et sur WhatsApp. Donc, des fenêtres sont apparues qui permettent un accès direct à l'IA de Meta. Une belle initiative de Meta, certes, de permettre ainsi aux gens d'avoir un contact direct avec une intelligence générative. Dans certains cas, ce serait la première fois qu'ils auront cette chance-là. Et je vous conseille d'ailleurs de prendre un moment pour découvrir l'outil qui fonctionne vraiment bien. Côté langue, pour le moment, bien que l'outil dit ne pas fonctionner en français, vous pouvez poser vos questions en français, mais vous aurez droit pour le moment à des réponses uniquement en anglais. Mais la version française devrait arriver sous peu. Sinon, la question qui revient souvent, c'est le fameux « est-ce que c'est possible de faire disparaître l'outil de l'interface d'utilisation de Facebook ou d'Instagram ou des autres plateformes? » Ben, la réponse, jusqu'à maintenant, ça semblait être oui, mais Meta vient finalement officiellement de confirmer qu'il n'est pas possible de faire disparaître cet accès à l'IA de Meta. Meta affirme que son assistant intelligent vise à être utilisé et est accessible via la barre de recherche pour répondre aux questions des utilisateurs. Alors voilà, vous voilà informés. Autre information sur laquelle je voulais revenir, c'est l'histoire de TikTok aux États-Unis, parce que c'est loin d'être fini. Alors voilà, c'est fait, hein, aux États-Unis, après les représentants, ce sont les sénateurs qui ont voté en faveur de la loi contre TikTok. Et puis, il y a le président américain qui a signé le décret pour aller de l'avant avec cette loi. Maintenant que la loi américaine « divest or ban », qu'on pourrait traduire par « désinvestir ou interdire », a été adoptée, que ByteDance, la société mère de TikTok basée à Pékin, doit céder sa filière américaine ou faire face à une interdiction totale aux États-Unis, ben la balle maintenant est rendue dans le camp de la compagnie chinoise. Parce que les jeux ne sont vraiment pas faits et la fin de cette histoire-là, ben c'est pas vraiment pour demain parce que ByteDance dispose de 270 jours pour se conformer à la loi, avec en prime la possibilité d'une extension de 3 mois s'il y a des progrès dans ce sens. Mais du côté de TikTok, la ligne de conduite est vraiment claire. Le dossier sera amené devant la cour et ironiquement, la compagnie chinoise va invoquer le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression pour contester la nouvelle loi de Washington. Et selon des gens qui sont près de ByteDance, la stratégie est très claire, pas question de vendre TikTok et sa technologie à des Américains. ByteDance préfère fermer son application aux États-Unis plutôt que de vendre. C'est une décision qui s'explique par l'importance assez capitale des algorithmes qui sont utilisés au cœur des opérations globales de l'entreprise. Et il faut aussi dire que TikTok représente une petite fraction des revenus et des utilisateurs actifs quotidiens de ByteDance. Et la fermeture de TikTok aux États-Unis aura un impact très limité sur l'entreprise. Dans le fond, les seuls perdants dans cette histoire-là, si TikTok devait fermer aux États-Unis, ben ce seraient les 170 millions d'Américains qui l'utilisent et les milliers d'influenceurs, toujours américains, qui en vivent. J'arrête ici, on aura le temps d'y revenir dans les prochains mois. Parlant de la Chine et de ByteDance dans le contexte de l'actualité de TikTok et dans le contexte aussi où de plus en plus de joueurs chinois nous offrent leurs services en ligne, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire le point sur la situation de la tech en Chine et comment le gouvernement de Beijing encadre le développement de la technologie là-bas, incluant évidemment le défi de l'IA. Pour en parler, je vous propose une entrevue avec l'auteur d'un tout nouvel ouvrage sur le sujet qui vient de paraître aux éditions Oxford University Press. iWire est signée par Angela Zhang. Elle est professeure agrégée de droit et directrice du Centre Phillips K.H. Wong sur la loi chinoise de l'Université de Hong Kong. Et c'est justement là qu'on va aller la rejoindre dans un instant. Ce que vous allez entendre, c'est la version française d'une entrevue qui a été réalisée précédemment en anglais, il y a quelques jours. Et grâce à l'outil de traduction de Rask.ai, je peux vous l'offrir en français. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Allez, de ce pas, on se rend à Hong Kong. Bonjour Angela Zhang.
Bonjour.
Angela Zhang, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire iWire?
My first book, mon premier livre s'intitule Chinese Antitrust Exceptionalism, How China Challenged Global Regulation, comment la réglementation chinoise a remis en question la réglementation mondiale. Ce livre est sorti à un moment extrêmement opportun puisqu'il a été publié en mars 2001, quelques mois seulement après la répression massive de la Chine dans le domaine de la technologie. Il a donc immédiatement attiré l'attention de la presse. Je suis devenue la personne de référence pour la presse et pour de nombreuses banques d'investissement parce qu'elles ont perdu beaucoup d'argent pendant la répression et qu'elles cherchent désespérément à comprendre ce qui se passe avec la réglementation chinoise en matière de technologie. Et comme vous le savez, l'antitrust était le principal outil réglementaire utilisé par le gouvernement chinois pour discipliner les entreprises technologiques. C'est donc à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser de très près à la réglementation de l'industrie technologique en Chine. Et évidemment, j'ai commencé à élargir mon champ d'études parce qu'au départ, je ne me spécialisais que dans l'antitrust. Puis j'ai commencé à m'aventurer et à m'intéresser à d'autres domaines de la réglementation qui affectent l'industrie technologique, comme les données, le travail, la fintech. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de matériel et que je devrais écrire un livre sur le sujet. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser au sujet.
Dans votre livre, vous parlez du modèle de la pyramide dynamique. Est-ce que c'est possible de m'expliquer, d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est?
Lorsque j'envisage d'écrire ce livre, je pense que les lois peuvent changer parce qu'elles sont tellement fluides et que la politique peut changer tout le temps. Mais je veux écrire un livre qui soit plus intemporel pour que les lecteurs le trouvent encore utile dans 10 ans lorsqu'ils liront les livres. C'est pourquoi j'ai décidé d'introduire un cadre analytique pour que les lecteurs puissent réfléchir à la manière dont la Chine réglemente les technologies. Ce modèle de pyramide dynamique se compose en fait de 3 éléments principaux. La première est la hiérarchie, la deuxième est la volatilité et la troisième la fragilité. J'utilise la hiérarchie pour décrire le processus réglementaire de la Chine comme étant très hiérarchique parce qu'il implique des acteurs de différents niveaux de la société chinoise. J'utilise ensuite le terme « volatilité » pour décrire son processus réglementaire qui tend à se caractériser par des cycles de durcissement et d'assouplissement de la réglementation. C'est pourquoi, vous savez, les investisseurs sont souvent très confus au sujet de la politique chinoise. Cela leur donne l'impression que la réglementation chinoise est très erratique, très arbitraire. En ce qui concerne le résultat de la réglementation, j'utilise la fragilité pour caractériser ce résultat. Car par fragilité, j'entends que très souvent des interventions réglementaires bien intentionnées peuvent générer de vastes conséquences imprévues. Et il faut souvent beaucoup de temps aux décideurs politiques pour se rendre compte de la gravité de ces effets secondaires. Ainsi, lorsqu'ils reviennent sur leur décision, il devient très coûteux de changer de cap et cela génère souvent des réactions négatives du marché.
Votre livre discute de la volatilité de la régulation technologique en Chine. Selon vous, qu'est-ce qui entraîne cette imprévisibilité et comment elle affecte les marchés mondiaux?
C'est un excellent point. La répression des entreprises technologiques chinoises a duré 18 mois et a fait disparaître plus de 1 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière du plus grand géant technologique chinois. Cette volatilité provient de trois sources et est en fait le résultat d'une hiérarchie. Il existe donc une interconnexion entre ces trois caractéristiques majeures. Si l'on considère la structure hiérarchique, les décideurs chinois, c'est-à-dire les principaux dirigeants de la Chine, se trouvent au sommet de la structure politique et réglementaire. Je veux dire qu'il est un peu comme l'homme qui marche sur un fil, comme je le montre sur la couverture du livre. Il a dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation en équilibrant constamment différents intérêts concurrents. On peut dire que l'agilité de son action a introduit beaucoup de volatilité dans la gouvernance réglementaire de la Chine. La deuxième source de volatilité provient également de la structure réglementaire hiérarchique, à savoir le fait que les agences réglementaires chinoises ne sont soumises qu'à très peu de contrôle et d'équilibre. Lorsqu'Alibaba a fait l'objet d'une enquête pour violation de la législation antitrust et a finalement reçu une amende de 8 milliards de dollars, cette entreprise a fâché les régulateurs et a promis de se conformer à la législation. Ce genre de coopération est impensable dans toute autre juridiction. Il y a très peu de contrôle et d'équilibre dans le processus réglementaire, ce qui permet aux agences d'aller de l'avant très rapidement. Du point de vue des agences, c'est très efficace, mais en même temps, à cause de ce manque de contrôle judiciaire, cela a aussi introduit beaucoup de volatilité dans le système, parce qu'il y a très peu de résistance au cours du processus. Et le dernier facteur important, et je pense que c'est le plus important, de cette volatilité est le déficit d'information, qui est une faiblesse inhérente à un système équitable. Lorsque l'on est l'empereur au sommet, on est en fait très seul et on doit se demander si l'on reçoit suffisamment d'informations ou si les informations que l'on reçoit sont déformées. Le déficit d'informations est donc toujours un problème majeur pour les hauts dirigeants chinois. Il en résulte que lorsqu'ils prennent conscience de la gravité d'un problème, il est souvent très tard. Et le temps qu'ils commencent à changer de cap, cela introduit à nouveau beaucoup de volatilité dans le système réglementaire.
Dans iWire, vous explorez l'équilibre entre le contrôle gouvernemental et l'innovation technologique en Chine. Comment vous évaluez l'efficacité de cet équilibre pour favoriser un écosystème technologique sain?
Malheureusement, ce modèle de réglementation pyramidale dynamique tend à conduire à la fragilité, ce qui tend à être le résultat de ce modèle. C'est que oui, ils viennent avec de bonnes intentions en essayant d'équilibrer l'innovation et la réglementation. Et c'est précisément la raison pour laquelle, au début, lorsqu'un nouveau produit ou une nouvelle technologie apparaissait, le gouvernement avait l'obligation d'établir un équilibre entre les deux. Et c'est exactement ce que vous avez vu avec les entreprises chinoises de technologie grand public. Pendant près d'une décennie, il n'y a eu pratiquement aucune intervention réglementaire dans ce domaine. On assiste souvent à des méga-fusions entre les plus grands géants chinois de la technologie, comme le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, qui fusionnent tous ensemble. Et il n'y a pas de contrôle des fusions. Au début, c'était un peu l'Ouest sauvage. Puis tout d'un coup, ils ont commencé à prendre des mesures drastiques pour s'attaquer au secteur technologique et le pendule est passé à l'autre extrême. Soit le gouvernement en fait trop peu, soit il en fait trop. Et lorsqu'il en fait trop, cela crée une forte réaction du marché. Donc, cette répression devrait introduire plus d'innovation dans le secteur, attirer plus d'entrées ou, vous savez, essayer de changer la dynamique de la concurrence. Or, nous ne voyons rien de tout cela parce que les investisseurs se sont retirés des entreprises technologiques grand public en pensant, vous savez, que le secteur technologique chinois n'est pas investissable. Il y a donc moins d'entrées en ce moment, étant donné que les investissements ont diminué. Ainsi, beaucoup de petites et moyennes entreprises ont encore plus de mal à rivaliser avec leurs concurrents plus importants. Il en résulte que, oui, les grandes entreprises sont affaiblies, mais elles continuent néanmoins à occuper une position dominante sur le marché.
Selon vous, quels sont les défis réglementaires les plus significatifs auxquels les géants technologiques chinois sont confrontés aujourd'hui?
Actuellement, nous sommes revenus à un autre extrême de l'assouplissement réglementaire parce qu'à partir de 2002, l'économie chinoise s'est beaucoup battue. En effet, à partir de 2002, l'économie chinoise a connu de grandes difficultés. Il y a eu une vente massive d'actions technologiques chinoises en mars 2002. C'est à ce moment-là que le gouvernement chinois a envoyé un signal politique très clair et très fort au marché, indiquant qu'il n'allait pas assouplir la réglementation. Et depuis lors, nous constatons que les agences, même si elles identifient maintenant une violation, elles ne veulent pas imposer d'amende parce qu'elles ne veulent pas être perçues comme allant à l'encontre de l'initiative d'assouplissement de la réglementation prise par le sommet. Ils ne veulent pas non plus mettre l'entreprise en faillite ou lui causer des difficultés financières. Nous revenons donc à un autre extrême d'une nouvelle vague de répression à l'avenir.
Dans le livre, vous discutez de la campagne de prospérité commune en Chine. Comment ce contexte politique influence-t-il les mesures réglementaires contre les entreprises technologiques en Chine?
Comme vous vous en souvenez peut-être, cette initiative de prospérité commune a été introduite exactement au milieu de la répression réglementaire. Si l'on considère les mesures de répression plus générales, la Chine a éliminé les entreprises de soutien scolaire en ligne presque du jour au lendemain. La Chine a également mené toutes ses enquêtes antitrust, ses réglementations du travail dans le secteur technologique, et la Chine essaie également de pousser tous ces géants de la technologie et leurs riches patrons à faire des dons à la société et à améliorer les biens. Je veux dire que toutes ces initiatives, qui semblent n'avoir aucun lien entre elles et être tout à fait aléatoires, contribuent toutes à faciliter la tâche du président Xi Jinping de parvenir à une prospérité commune, parce qu'en fin de compte, la prospérité commune est destinée à lutter contre les inégalités dans l'économie. Donc, d'une certaine manière, comment aborder le problème de l'inégalité et la réforme du secteur du soutien scolaire en ligne, encore une fois, en essayant d'aborder, je dirais, la phase dite de pré-production de l'économie, en, vous savez, égalisant les règles du jeu entre les riches et les pauvres, et en essayant de permettre aux pauvres d'avoir le même accès aux opportunités d'éducation, parce qu'ils pensent que le secteur du soutien scolaire en ligne crée une concurrence excessive et toxique parmi les jeunes Chinois. Et puis, inciter les riches et faire pression sur eux pour qu'ils fassent des dons, c'est essayer de s'attaquer au problème de la redistribution. Car il est difficile pour le gouvernement de taxer les riches. Toutes ces mesures facilitent donc la réalisation de l'objectif de prospérité commune. Mais la façon dont ils essaient d'y parvenir est assez maladroite. C'est pourquoi beaucoup de gens ont l'impression que la Chine va revenir sur ses années de réforme du marché. Je veux dire que cela a créé beaucoup de conséquences inattendues.
J'aimerais vous entendre sur les implications internationales de la régulation technologique que les entreprises technologiques connaissent en Chine. Comment ça impacte les investissements étrangers en Chine et les entreprises technologiques mondiales?
Très bonne question. À première vue, il semble que cette répression soit entièrement nationale. Elle n'a que très peu d'importance pour le reste du monde. Je dirais qu'il y a au moins 3 impacts importants. Mais cette répression a un impact énorme sur l'économie chinoise parce que le secteur fiscal chinois contribue à plus de 40% du PIB de la Chine et à plus de 20% de sa main-d'œuvre active. Il s'agit donc d'un élément très important de l'économie chinoise. Et c'est aussi l'une des principales raisons qui ont contribué au ralentissement économique actuel de la Chine. Je veux dire par là que l'économie chinoise est extrêmement importante pour l'économie mondiale. Pour cette seule raison, il est donc important de comprendre ce que fait la Chine avec son secteur fiscal. Deuxièmement, d'un point de vue plus concret, on constate que la répression dans le secteur de la technologie n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi une question de sécurité. La répression dans le domaine de la technologie, non seulement parce que les géants nationaux de la technologie qui ont été la cible principale de cette répression, mais aussi parce qu'elle a conduit à un nouveau recul des entreprises technologiques étrangères opérant en Chine. Il n'y a pas beaucoup de plateformes de médias sociaux, des entreprises américaines de médias sociaux comme Facebook et Google. Je veux dire par là qu'elles sont relativement moins présentes en Chine en raison de la censure et de la grande muraille de feu érigée par le gouvernement chinois. Il n'en reste pas moins que de nombreuses entreprises opèrent en Chine. Vous voyez Apple, Tesla. Pendant la répression, nous avons vu certains acteurs se retirer, comme Lincoln qui s'est retiré, Yahoo s'est également retiré. Il est évident que ces entreprises n'ont pas eu beaucoup de succès sur le marché chinois. Mais je pense que la répression a été en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'elle a créé tellement de données, tellement de conformité réglementaire pour ces entreprises parce qu'elle a promulgué beaucoup de pertes de données. Ces entreprises ont donc décidé que les coûts d'exploitation et les coûts de mise en conformité avaient considérablement augmenté. Il n'est tout simplement pas rentable de continuer à opérer sur le marché chinois. Les entreprises technologiques chinoises, après s'être améliorées pendant 18 mois, pensent que, même si la réglementation s'est assouplie, elles ressentent toujours, au fond d'elles-mêmes, l'effet dissuasif d'une répression potentielle. Ils se sentent donc très peu sûrs d'eux. Les entreprises chinoises et les entrepreneurs eux-mêmes sont aujourd'hui plus désireux de s'aventurer à l'étranger pour développer leurs activités. Certaines d'entre elles ont connu un succès fulgurant. Même avant la répression, ByteDance et TikTok ont connu un succès fulgurant sur le marché américain. Mais au cours des deux dernières années, de plus en plus d'entreprises se sont lancées à l'étranger, comme Temu, qui appartient à Pinduoduo et qui a connu un grand succès sur le marché américain. Xin, qui est une entreprise de mode rapide, a également obtenu d'excellents résultats. De nombreuses startups chinoises spécialisées dans l'IA s'aventurent désormais à l'étranger. Mais il est évident que lorsqu'elles vont à l'étranger, elles font de leur mieux pour dissimuler leur identité chinoise, car c'est devenu un obstacle majeur à leur réussite sur les marchés étrangers.
Dans le livre, vous comparez les actions réglementaires chinoises à celles de l'Occident. Mais je me demandais, en lisant votre livre, qu'est-ce que les régulateurs occidentaux pourraient apprendre de l'expérience chinoise?
Oui, c'est vrai. Je pense en fait que le cas de la Chine est une sorte d'exemple extrême qui nous permet de voir quand, vous savez, la régulation peut se faire au niveau de l'entreprise. À la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire à une vitesse et une vélocité qu'aucune autre juridiction ne peut égaler. J'ai entendu de nombreux universitaires et décideurs politiques progressistes se plaindre de la lenteur du processus réglementaire, de la frustration qu'ils éprouvent à l'égard de leur système actuel de réglementation, en particulier aux États-Unis, où la FTC et le DOJ ont intenté de nombreuses actions en justice. En fait, 4 des 5 principales grandes entreprises technologiques ont fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la FTC ou du DOJ. Mais si vous regardez leurs antécédents dans le passé, elles ont très bien réussi à défendre leur cause devant les tribunaux. Le régulateur se sent très frustré. Mais je tiens à leur dire à ce public frustré de l'Ouest que, écoutez, le fait que vous ayez un système de contrôle et d'équilibre très solide dans votre système juridique est une bénédiction déguisée. Parfois, il se peut que vous ne souhaitiez pas que l'agence agisse aussi rapidement, comme le montre l'exemple extrême de l'affaire chinoise, où les agences peuvent aller de l'avant avec très peu de résistance de la part des entreprises. Et cela génère, en fait, d'énormes conséquences imprévues. Je veux dire par là que vous préférez que le système évolue plus lentement. Oui, ce n'est pas ce que vous auriez pu espérer de mieux, mais c'est quand même le meilleur parmi les pires.
Dans le domaine des technologies, évidemment, le sujet de l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Comment vous croyez que le gouvernement chinois va être capable de contrôler, d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle en Chine?
Très bonne question. Dans le dernier chapitre du livre, j'attends avec impatience de voir comment la Chine va réglementer l'IA, en particulier l'IA générative. Pour l'instant, ils appliquent une position assez laxiste, en fait plus laxiste que l'on pensait qu'ils le feraient pour réglementer cette technologie. C'est un peu comme le cycle de réglementation de l'industrie chinoise des technologies grand public dans les premières années. Le gouvernement a été très encourageant, très favorable au développement de la technologie. À l'époque, nous avions l'initiative Internet Plus et aujourd'hui, nous avons l'initiative AI Plus. Et nous venons de terminer 2 sessions du Congrès national du peuple où le nouveau mot à la mode est la nouvelle force productive de qualité et où l'IA est mise en avant comme l'une des technologies clés qui peuvent permettre à la Chine d'améliorer son développement industriel. Tout le monde compte donc sur l'IA, sans parler de la rivalité technologique sino-américaine très intense en ce moment. La Chine est à la traîne par rapport aux États-Unis, en particulier dans le domaine de l'IA générative. Le gouvernement est donc plus enclin à favoriser cette technologie qu'à en contrôler la croissance. Ainsi, lorsque le gouvernement marche sur la corde raide et tente d'équilibrer ses intérêts divergents, il penche pour le développement plutôt que pour la réglementation. Nous sommes donc dans une sorte de lune de miel réglementaire avec l'IA, bien que le pendule ne puisse pas bouger très rapidement si un grand désastre se produit ou si une catastrophe survient.
En terminant, Angela Zhang, qu'est-ce que vous espérez que vos lecteurs vont retenir de iWire?
Je veux que les lecteurs comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre sur la réglementation de la technologie en Chine, mais plus généralement, je veux que les lecteurs voient ce livre comme un livre qui les aide à réfléchir de manière plus générale à la manière dont la Chine réglemente ses activités. L'économie chinoise est actuellement au plus bas. C'est vrai. Je veux dire que si vous réfléchissez à la manière dont nous pouvons relancer l'économie chinoise, à ce qui peut fondamentalement changer et aux perspectives de l'économie chinoise, nous devons vraiment revenir à son modèle réglementaire distinct, n'est-ce pas? Comment le problème a-t-il commencé? À mon avis, le problème est né du fait que nous avons un système de régulation très strict, très étroitement contrôlé. Cela signifie que si nous voulons vraiment réformer le système et briser le cercle vicieux que nous observons aujourd'hui, nous devons mener des réformes institutionnelles sérieuses et drastiques. En mettant de côté toutes les réformes monétaires et fiscales dont parlent les économistes, je pense qu'elles ne s'attaquent qu'au problème des services. Si nous ne nous engageons pas réellement dans des réformes institutionnelles profondes, il sera très difficile de relever fondamentalement les défis économiques auxquels la Chine est confrontée aujourd'hui.
China is facing today.
Angela Zhang, merci d'avoir répondu à mes questions.
Thank you so much. It was a great pleasure.
Alors voilà mon entrevue avec Angela Zhang. Elle est professeure associée en droit. Elle est également directrice du centre Phillips K.H. Wong sur la loi chinoise à l'Université de Hong Kong. Et le titre de son livre s'appelle « I Wire ». Ça vient de sortir. Et si vous allez sur le descriptif de cet épisode de Mon Carnet, vous trouverez un lien pour commander le livre si le sujet vous intéresse. S'il y a une entreprise qui a pris du galon rapidement dans le monde de la technologie, c'est bien OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Et malgré son omniprésence dans notre vie numérique aujourd'hui, on connaît peu de choses de cette entreprise. Alors cette semaine, je vous propose de lever le voile un peu sur cette entreprise et même d'en connaître un peu plus sur ce qui a entouré le lancement de ChatGPT il y a plus d'un an et demi. Pour ce faire, on va aller rejoindre à l'instant, en Géorgie, aux États-Unis, Mathieu Roy, un gradué de l'Université Laval de Québec qui fait maintenant partie de l'équipe d'OpenAI. Il est là depuis plus de 2 ans. Alors, on le retrouve immédiatement. Bonjour, Mathieu Roy.
Bonjour.
Mathieu Roy, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Ouais, je suis mon rôle officiel, c'est responsable de programme technique. Mon travail consiste à comprendre les besoins des chercheurs puis des personnes qui s'occupent de développer le produit ChatGPT à OpenAI pour demander à une équipe de personnes qui vont entraîner ChatGPT à des nouveaux comportements. Donc, peut-être apprendre à utiliser des nouveaux outils ou si on veut changer sa personnalité. Tous ces comportements-là que ChatGPT apprend demandent des humains qui vont lui montrer comment le faire.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est changer son comportement. Est-ce que ChatGPT change souvent de comportement? Est-ce que c'est ajusté en temps réel? Comment ça se passe?
Il y a des décisions qui sont faites pour changer comme sa personnalité. Je pense qu'on était plutôt conservateur vu qu'on était les premiers sur le marché vraiment à offrir un produit comme ça. Je pense que OpenAI se disait on est mieux d'être conservateur puis de mettre les limites plus conservatrices. Puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a des choses que ChatGPT refuse trop souvent que ce serait correct de ChatGPT à faire. Fait que, ouais, ça, c'est des choses, des updates qu'on fait.
Comment ça se décide d'ouvrir un petit peu plus les barrières? Est-ce que c'est un comité? Comment ça se passe?
C'est pas un processus dans lequel je suis impliqué, donc je ne pourrais pas vraiment commenter par rapport à ce processus. Moi, c'est on me dit, OK, de façon globale, c'est le comportement qu'on veut, c'est, disons, que ChatGPT arrête de refuser un certain type de requête. Puis là, après ça, moi, je vais partager cette directive-là à une équipe de personnes qui vont créer des conversations comme s'il était ChatGPT. Où est-ce que ces requêtes-là sont plus refusées maintenant? Où est-ce qu'une réponse est donnée? Puis là, ces données-là sont utilisées pour entraîner ChatGPT après.
Sur un plan personnel, vous êtes un ingénieur de l'Université Laval.
Oui.
J'imagine que les ingénieurs rêvent à un moment donné d'inventer quelque chose. Vous êtes au cœur d'une invention qui a changé sensiblement l'histoire de l'informatique de par sa facilité d'accès là, avec le commun des mortels. Comment on se sent quand on est au centre de cette activité-là?
Pour moi, c'est ce qui était le plus qui a eu le plus d'impact, c'est un niveau, la popularité que l'IA a eu après ChatGPT. Pour moi, c'était beaucoup des discours qui sont présents maintenant, qui sont fréquents, étaient très rares avant ChatGPT. Puis moi, ça fait comme 10 ans que je m'intéresse à ça. Donc, c'est vraiment étrange de voir des trucs qui étaient très niche pour moi, qui sont maintenant rendus mainstream. Mais sinon, aussi, pour moi, c'est une technologie très puissante qui, à moyen terme, peut avoir un impact énorme, potentiellement positif ou négatif. Puis, c'est comme de quoi que je prends très au sérieux. Puis, des fois, on développe des features qui sont cool, mais pour moi, je vois plus comme. Je m'inquiète quand même des répercussions à long terme. Donc, je trouve ça surprenant, des fois, quand on développe des nouveaux features, mais je garde tout le temps en perspective. OK, ouais, c'est des cool features, mais comme c'est sérieux ce qu'on développe là.
Je me trompe ou j'ai l'impression qu'en lisant vos propos puis en écoutant les entrevues que vous avez données ici et là, je sens que l'éthique par rapport aux technologies que vous développez, l'éthique est importante pour vous.
Ouais, je dirais qu'il y a définitivement une partie éthique, mais je pense qu'il y a une grosse partie aussi, c'est de l'ingénierie par rapport à la sûreté spécifiquement de l'IA. Comme une fois que l'IA devient plus puissante que nous, comment est-ce qu'on garde le contrôle? Comment est-ce qu'on peut, de façon robuste, savoir que ces motivations sont alignées avec les motivations de l'humanité? Après ça, il y a le problème éthique de, OK, qu'est-ce que sont ces motivations-là? Mais aussi, je pense que c'est un gros problème d'ingénierie de savoir comment encoder quelconque motivation.
Mais vous avez le même problème que le concepteur du marteau à l'époque, c'est-à-dire que le marteau peut être utilisé pour bâtir, mais aussi pour détruire.
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs domaines où est-ce que la sûreté puis la capacité sont très proches, très interreliées. Comme si tu construis un pont, ben la capacité et la sûreté de ton pont va quand même aller main en main. Il y a d'autres domaines peut-être où est-ce que la maîtrise de l'énergie nucléaire, par exemple, où est-ce que c'est un peu différent. Il y a une structure sociétale qui doit être mise en place. Puis je pense que pour l'IA, il y a une cause de risque qui est différente de toutes les autres technologies qu'on a développées, où est-ce que l'IA elle-même peut devenir autonome puis poser un risque par elle-même, séparé de son utilisation par des humains. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une nouvelle cause de risque parce qu'on n'a pas vraiment d'analogie très bien développée. Là. Peut-être la meilleure analogie, ce serait dire une nouvelle espèce comme l'Homo sapiens qui arrive puis qui fait que les autres espèces comme le Homo néandertal devient extinct. Je pense que c'est une analogie qui fait plus de sens que de faire une analogie par rapport à d'autres technologies.
C'est intéressant parce que je vous écoute, puis vous revenez souvent avec justement le fait que ben, je sens que vous avez des craintes, vous avez une peur par rapport à l'avenir de l'humanité, sachant que on pourrait perdre le contrôle avec des créatures qui sont aussi puissantes que ça. Mais de l'autre côté, vous travaillez à développer ça. Je pense aussi à votre patron, Sam Altman, qui, des fois, nous met en garde contre l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, vous travaillez aussi à faire ça. Donc, comment nous, simples utilisateurs, on peut arriver à être en sécurité ou à être confiant d'utiliser les outils que vous développez? Si vous craignez un peu ce que vous avez entre les mains?
Je ne crains pas comme les outils qu'on a présentement, qu'on offre. Je pense que les utilisateurs sont bien renseignés sur les limites de ChatGPT ou des compétiteurs de ChatGPT.
Oui, des compétiteurs.
Ouais. À plus long terme, c'est quand même difficile d'avoir des points d'intervention pour comme la plupart des personnes par rapport à comment développer l'IA de façon sûre. Mais je pense politiquement de supporter des programmes où est-ce que le gouvernement aurait un oversight par rapport à ce qui se passe, puis des ententes internationales, puis des capacités de ralentir. Comme le gouvernement, est-ce que le gouvernement présentement a la capacité d'arrêter le développement de l'IA s'il jugerait que ça devenait dangereux ou qu'il y avait des problèmes techniques par rapport à encoder les motivations dans l'IA qui n'étaient pas encore résolues? Je ne sais pas si on a cette capacité-là présentement, puis c'est peut-être un point d'intervention possible. Juste d'être au courant, d'en parler.
Ah, vous écoutez, j'ai l'impression que vous appréciez tout le travail de communication que Yoshua Bengio fait pour poser les questions et forcer les gouvernements, autant les Nations Unies que les différents gouvernements là, des États, à prendre position puis à s'assurer qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau de la réglementation.
Oui, par rapport à ce que j'ai écouté de Yoshua Bengio dans la dernière année, j'étais surprenant surpris. Positivement surpris de son discours, puis je pense que c'est très sain et bonne orientation par rapport à développer cette technologie.
Je vous ramène à votre travail chez OpenAI. Ça fait 2 ans que vous êtes chez OpenAI. Comment vous avez vécu de l'intérieur la révolution que vous avez créée? Comment, à l'intérieur, comment ça se vit?
Au moment qu'on a déployé ChatGPT, à l'intérieur de la compagnie, on était quand même assez isolés. Notre travail jour au jour était le même. Comme. Mais ouais, de voir, c'est comme un des produits qui a gagné en popularité les plus rapidement, qui a brisé des records. Là. Ouais, c'était surprenant de voir ça, puis de voir l'impact que ça avait.
Mais de l'intérieur, vous le dites, ça n'a pas changé votre quotidien, vos tâches étaient toujours les mêmes pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais est-ce qu'il y avait une fierté? Est-ce qu'il y avait une nervosité? Comment ça se passait de ce côté-là?
Oui, c'est vraiment intéressant parce que, comme de notre point de vue interne, il n'y a pas eu de changement immédiat grand comme par rapport à la capacité de l'IA. Comme ChatGPT à la base était basé sur GPT-3, puis GPT-3 existait déjà depuis comme plusieurs mois au moment qu'on a déployé ChatGPT, sauf qu'il n'était pas disponible dans une interface d'assistant. C'était juste comme un prédicteur de texte. Puis cet élément de UI qui facilitait l'interaction avec l'IA a fait que le produit a explosé en popularité. Moi, j'avais déjà montré le produit avant ChatGPT à des personnes que je connaissais, mais juste le fait que c'était pas un assistant, que faire une discussion interactive, qui c'était juste un prédicteur de texte, faisait que c'était beaucoup moins facile de comprendre.
Mais tout a passé par le UX.
Ce qui manquait à la marge entre GPT-3 puis ChatGPT, c'était le UX, ouais.
Et les gens qui ont travaillé là-dessus, parce que j'imagine que de temps en temps, vous les croisiez, eux, est-ce qu'ils étaient conscients que ça allait être aussi important leur apport dans le travail?
Autant que je sache, il n'y a personne vraiment qui s'attendait à ça. En rétrospective, c'est surprenant, mais comme ChatGPT était publié comme étant un preview de la recherche qui se passait internement. Donc, ça devient le produit qui a grossi le plus rapidement. Donc, ouais, c'est.
Puis comment ça s'est passé les jours qui ont précédé le lancement? Est-ce qu'il y a eu des... Ben là, vous étiez toujours en test parce que vous étiez toujours en train d'améliorer GPT, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier, genre la veille ou le jour même du lancement?
Mon équipe n'était même pas au courant que ça allait être déployé au moment que ça allait être. Ouais.
Ça a été quoi la réaction quand on a vu que leur travail est accessible?
C'était bizarre à quel point notre travail au quotidien était comme aucunement changé, puis de voir le lien, OK, de faire la connexion, OK, ouais, ce que je vois, c'est relié directement au travail que je fais.
Vous, parce que c'est ça, vous le disiez, ça fait longtemps que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, vous, où vous trouvez votre plaisir, où vous trouvez votre défi intellectuel là-dedans?
Ultimement, comme j'aime la job spécifique que je fais, puis les tâches spécifiques que je fais, mais ultimement, ce qui me motive beaucoup, c'est la mission de l'organisation, puis je serais épanoui dans divers rôles, autre que le rôle spécifique que je fais. Ce qui motive vraiment, c'est la mission de l'organisation, plus que quelconque tâche spécifique que je fais.
Donc, vous, c'est l'idée de faire avancer l'intelligence artificielle.
Oui, de façon sûre et pour le bénéfice de l'humanité.
Comment vous assurez de garder l'intelligence artificielle? Là, aujourd'hui, c'est chez OpenAI, mais peut-être qu'un jour, ça sera ailleurs. Comment vous assurez, vous, dans votre démarche de travail, de garder ça le plus sûr possible?
Comme il y a plusieurs projets sur lesquels j'aimerais m'impliquer, c'est des organisations qui demandent des milliers de personnes à collaboration énorme pour atteindre ces objectifs-là. Donc, moi, présentement, je travaille avec l'équipe de Super Alignment à OpenAI qui s'intéresse à résoudre ce problème-là de motivation avec des intelligences artificielles qui surpassent l'être humain. Mais sinon aussi, je pense que la structure corporative, puis la mission, puis les projets sur lesquels OpenAI travaille sont dans les plus probables de mener l'humanité dans une bonne direction. Donc, juste de supporter OpenAI en général, que ce soit à développer un feature pour ChatGPT, puis qu'il y a quand même plus de revenus à OpenAI, même si c'est pas directement relié au Super Alignment, c'est de quoi que je pense qu'il y a de la mission au final.
Est-ce que vous êtes surpris, parce que vous, je le disais tout à l'heure, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, mais est-ce que vous êtes surpris de voir l'engouement autour de l'intelligence artificielle?
Ouais, je pense, je suis surpris à quel point ça a devenu mainstream très rapidement, que ça faisait comme au-dessus de 10 ans que je voyais des organisations qui essayaient de comme sonner l'alarme ou d'apporter attention au gouvernement, apporter attention à diverses organisations, puis de voir comme à quel point ça transitionnait rapidement, puis à quel point maintenant c'est déjà intégré, puis c'est déjà comme c'est déjà accepté, puis intégré dans la société, puis discuté énormément. Ouais. Je garde ça définitivement en perspective. Ouais.
Est-ce que ça vous inspire, vous, d'être là, d'être une des personnes qui travaille à révolutionner, à quelque part, les outils qu'on utilise dans la vie?
Je pense qu'il y a une bonne chance que que la transition vers l'IA va soit bénéficier l'entièreté de l'humanité ou va nuire ou va mener à l'extinction des humains. Donc, je pense qu'on est comme dans le même bateau dans une grande mesure. Puis,
et qu'est-ce qui va faire la différence qu'on aille dans un sens ou dans l'autre?
Oui, il y a plusieurs problèmes à résoudre, comme il y a le problème technique que je faisais référence de motivation, mais il y a aussi collaboration internationale pour éviter des courses à l'armement ou éviter le déploiement de l'IA de façon prémature. Ouais, puis être au centre de ce développement-là, ben, je pense que ça donne une occasion de contribuer.
En terminant, quel conseil, quelle recommandation vous donneriez à quelqu'un qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et qui voudrait œuvrer dans ce domaine-là?
J'encouragerais à sentir un certain comme devoir de se renseigner sur l'impact à long terme que ça pourrait avoir sur l'humanité. J'encourage les personnes qui s'intéressent à joindre le domaine, de pas juste joindre la machine puis accélérer l'IA sans être conscient du contexte dans lequel ça se passe.
Donc, d'être responsable dans sa démarche.
Oui.
Mathieu Roy, vous êtes chef de produit chez OpenAI. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne suite.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Je vous l'avais racontée il y a quelque temps. Je vous parlais d'Air Canada qui avait été condamné à payer des dommages à un passager qui avait été induit en erreur par son agent conversationnel, son chatbot, concernant les tarifs de deuil. Le passager, après le décès de sa grand-mère, avait consulté le robot d'Air Canada qui lui avait indiqué qu'il était possible de demander un tarif de deuil rétroactivement. Je pense, si ma mémoire est bonne, il avait 90 jours après son vol pour en faire la réclamation. Mais une fois revenu des funérailles de sa grand-mère, Air Canada n'a jamais voulu lui réduire son billet, alléguant qu'il aurait dû les aviser lors de l'achat du billet. Finalement, un juge de la Colombie-Britannique a jugé que le chatbot avait fourni une information erronée et a obligé Air Canada à rembourser aux passagers 812 $ pour dommages et frais de justice. Ce verdict souligne les défis et les risques légaux associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la relation avec la clientèle. Alors, qui est responsable lorsque vient le temps de donner des informations à la clientèle en utilisant une intelligence artificielle? Eh bien, on va en discuter avec un avocat du cabinet Lavry spécialisé dans la question. Maître Gaspard Petit, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
Avant qu'on parle de notre sujet, moi j'aimerais savoir, je lisais que chez Lavry, vous avez un laboratoire juridique sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait exactement, un laboratoire sur l'intelligence artificielle dans un bureau d'avocat?
Ah ben, vous êtes bien informé. En fait, le laboratoire existe depuis plusieurs années, avant que j'ai rejoint Lavry l'année dernière. Donc, bien avant, là, il y avait eu déjà des explorations au niveau de qu'est-ce que l'intelligence artificielle pouvait faire dans un cabinet d'avocat, entre autres, mais aussi d'être capable de conseiller des clients, donc de se familiariser avec la technologie pour être capable de conseiller des clients.
Donc, c'est un genre de carré de sable?
C'est un genre de carré de sable, exactement. Il y avait eu des efforts, je peux pas nécessairement parler exactement des détails de ce qui avait été fait avant mon arrivée. Moi, depuis que je suis dans le groupe, on a participé à un effort pour mettre en place justement un agent conversationnel au sein de Lavry pour aider les membres du cabinet. Donc, pas nécessairement uniquement les avocats, parce qu'en fait, un agent conversationnel à la ChatGPT, ça peut aider un paquet de personnes sur un paquet.
Ben ouais.
Exactement. Donc, on ça a été mis en place dans le cabinet assez rapidement. Moi, ça donne que j'ai un background en génie logiciel et que j'arrivais là de l'industrie de l'info nuagique. Donc, on a aligné les bonnes personnes. Les gens des TI, les gens pour avoir les approbations là, au niveau de la conformité. On a eu un petit groupe, Strike Team, là, si je peux le dire comme ça. Et puis, en quelques mois, on avait un prototype et on était capable de le déployer. Et puis, ça peut nous aider pour un paquet de tâches, ça peut nous aider pour de la rédaction, ça peut nous aider pour réviser des contrats, ça peut nous aider à brasser des idées, à définir des termes, à chercher des mots, ça peut servir à un paquet de choses.
Donc, j'en comprends que vous êtes un avocat de votre temps.
Ou j'essaie de l'être, oui. Je ne pense pas être encore dépassé.
Ah bon, c'est rassurant pour vos clients. Mais donc, merci pour cette explication-là. On en arrive donc à la raison pour laquelle vous avez accepté mon invitation. Et écoutez, je vous pose la question là, tout de suite. qui est responsable en cas d'erreur commise par un robot conversationnel sur un site d'une entreprise?
C'est une bonne question. La première réponse que je suis obligé de donner, c'est que ce ne sera pas un avis juridique. La deuxième, ce sera que mes connaissances se limitent principalement au Québec. Donc, je ne peux pas nécessairement dire un peu au Canada, mais ça va dépendre d'un pays à l'autre. Ce que je peux dire par rapport au Québec, c'est que il existe déjà des dispositions dans le Code civil, notamment dans la loi de la protection du consommateur. Il existe déjà des dispositions qui ont anticiper ce genre d'usage-là, c'est-à-dire que on a une boîte noire finalement qui est autonome, qui fait quelque chose, qui va donner de l'information. Puis bon, ça, en droit québécois, il faut qu'il y ait une responsabilité, il faut que quelqu'un soit responsable. Donc, selon le Code civil, déjà, il y a des dispositions qui disaient que ça s'appliquait dans le cas de machinerie, par exemple, que l'effet autonome d'un bien sont à la responsabilité de celui qui l'opère ou celui qui l'a fabriqué.
Donc, en français, ça veut dire quoi?
Ben, en français, ça veut dire, ça peut être deux personnes, concrètement, pour un chatbot, par exemple. Ça peut être la personne qui l'a configuré, mis à la disposition du public, mais ça peut être aussi celui qui l'a conçu en amont. Donc, celui qui l'a fabriqué, qui a fait les modèles. Il pourrait y avoir une certaine responsabilité par rapport à celui qui a créé le chatbot, autant que celui qui l'a rendu disponible.
Donc, prenons mon exemple de départ que je mentionnais juste avant de vous présenter. Un transporteur aérien, on n'a pas besoin d'en nommer un. Donc, un transporteur aérien qui offre donc un agent conversationnel sur son site, un passager ou un consommateur va chercher de l'information qui s'avère erronée après. Alors, dans le cas du transporteur aérien, vous me dites que c'est à la fois le transporteur aérien, mais c'est aussi la responsabilité de l'entreprise qui aurait vendu.
Oui, bien, dans un cas comme ça, là, ce que je dis, en droit québécois, il y aurait d'autres choses. Là, je pense que vous faites référence à l'affaire de Moffat Air Canada.
Exactement.
Il y a différents aspects à ça. Il y a l'aspect du consommateur lésé, puis il y a l'aspect de la sécurité du public, qui sont deux aspects là, par rapport au chatbot sur lesquels on peut s'intéresser. Dans ce cas-ci, si on s'intéresse au consommateur lésé, c'est beaucoup plus le transporteur aérien ou celui qui a mis à la disposition du public.
Le service, là.
Le service. Donc, dans ce cas-ci, on tombe dans ce qu'on appelle, en anglais, là, c'est du negligent misrepresentation. Au niveau de la loi sur la protection du consommateur, ça va plutôt d'être de faire des représentations fausses ou trompeuses aux consommateurs.
D'accord.
Donc, ça peut être dans la publicité, mais ça peut être dans un dépliant, ça peut être dans un chatbot. Donc, il y a une interdiction de faire ce genre de représentation-là.
Mais je vais plus loin dans l'histoire-là parce que ce qui m'avait intéressé, mais je veux juste avoir pas de commentaire, là, ce n'est pas un avis juridique, là. Dans le plaidoyer du transporteur en question, l'avocat qui représentait le transporteur a dit devant le juge, et moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai entendu ça, que le transporteur, l'entreprise, n'était pas responsable des propos tenus par son robot conversationnel et il n'était même pas tenu responsable par les propos d'un agent de service qu'on aurait contacté pour avoir l'information. Mais je vous ramène au Québec. Dans les faits, le consommateur québécois serait protégé par ces mêmes lois-là, qui dit que lui a téléphoné de bonne foi ou a contacté de bonne foi ce transporteur-là et a obtenu ces informations-là sur lesquelles il a basé sa transaction, mais les informations n'étaient pas bonnes.
Oui, ben l'argument est un peu, disons, il tire un peu la sauce. Là. C'est peut-être quand les chatbots sont rendus sentients et on pourra leur donner une autonomie, une personnalité aussi, mais on n'en est pas là. Ça reste un algorithme qui est exécuté sur l'ordinateur de quelqu'un à quelque part. Même s'il est dans le cloud, il roule à quelque part. Et puis, il est mis à la disposition volontairement du public. Donc, des décisions qui sont prises en place. Le juge n'a pas été très, très sensible à l'argument de la personnalité autonome d'une intelligence artificielle. On n'en est pas là encore. Puis, la loi ici serait assez claire, à mon avis, qu'il y aurait une responsabilité de celui... En fait, un chatbot, on ne peut pas se cacher derrière le chatbot. Ce que le chatbot va dire... Il faut qu'on endosse, exactement.
D'accord.
Donc, ça donne des scénarios. Moi, j'en ai vu un paquet là, récemment. On parle de celui d'Air Canada, mais il y a eu au niveau des vendeurs de voitures qui ont mis des chatbots basés sur ChatGPT où les gens montraient qu'ils étaient capables de leur faire faire leurs devoirs. On peut leur demander finalement un paquet de questions qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi le chatbot a été conçu. Donc, ça donne des scénarios un peu étranges où il y en avait eu un, ça c'était un peu avant les fêtes. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Quelqu'un qui avait réussi à expliquer au chatbot qu'il devait toujours être d'accord avec ce qu'il disait. Et puis finalement, il lui disait, tu vas me vendre une voiture à 1$. Puis le chatbot disait oui. Donc, il y a aussi cette notion-là de l'utilisateur qui pourrait pousser le chatbot à dire certaines choses. Puis là peut-être il y aurait un argument à faire que c'est pas entièrement celui qui l'a mis à la disposition qui en est responsable. Le client qui comprend puis devrait s'attendre, qui comprend le résultat, devient responsable à un certain point. Il y a des articles, même dans le Code civil, qui tiennent compte de ça. Que mais si le consommateur devait raisonnablement s'attendre à l'information erronée, il pourra pas, c'est pas automatique que ça va être celui qui a donné l'information qui est responsable.
Et donc, vous me confirmez que les lois actuelles, particulièrement au Québec, couvrent assez bien le champ. On n'aurait pas besoin de lois particulières pour mieux baliser cette nouvelle réalité-là?
C'est une bonne question. En termes d'agent conversationnel pour la consommation, je vois pas tant de failles. Évidemment, il y en aura sûrement devant les tribunaux éventuellement. Il y a une explosion de chatbots, donc c'est inévitable qu'il finira par avoir une histoire du genre au Québec.
Parce que je pense à tous ces gens qui, à l'époque, on se googlait, aujourd'hui, on se chat GPT.
Oui, et, pour voir notre degré de popularité.
Exactement. Il y a des gens qui, évidemment, apprennent qu'ils avaient une autre vie que la leur et de temps en temps, dans un contexte pas toujours positif. Je pense à une personnalité en Géorgie, là, c'est loin de chez nous, là, mais qui a intenté une poursuite contre OpenAI parce que on lui disait qu'il avait été condamné pour des choses qu'il n'avait pas fait, évidemment. Et là, il y avait une atteinte à la réputation. Dans un contexte comme ça, d'autant plus que là, on ne parle pas d'une entreprise, d'un transporteur aérien qui est au pays, qui a sa place d'affaires sur le territoire québécois. Là, on parle d'une entreprise étrangère sur laquelle on n'a pas vraiment de main. Qu'est-ce qui va arriver dans des contextes où il n'y aurait pas nécessairement malversation, mais de par les rudiments d'apprentissage, il y aurait de l'information qui serait erronée, puis dans certains cas, qui pourrait être négative face à un individu?
C'est des bonnes questions. J'aurais pas des réponses très claires, malheureusement. Il y a probablement des places à, par exemple, au niveau du droit à l'image ou à la réputation. Il y aurait un risque que un chatbot, par exemple, dise des choses erronées sur quelqu'un, puis que ça puisse engager sa responsabilité jusqu'à un certain point, puisqu'il amènerait des rumeurs ou il amènerait, bon, de l'information.
Sur une atteinte à la réputation.
Une atteinte à la réputation. Ouais. Je peux imaginer que ça puisse arriver. En même temps, c'est pas tant différent que de l'atteinte à la réputation traditionnelle où si vous publiez un blog et puis vous dites quelque chose sur quelqu'un puis vous n'avez pas vérifié vos faits, ben vous pouvez engager votre responsabilité. Pour moi, ça reste à peu près le même degré. Le risque est plus grand pour celui qui donne à la disposition le chatbot. Puis là, c'est de voir à quel point est-ce que ces gens-là font des tests, vérifient les limites de ce que le chatbot va accepter de dire. Avant, c'était facile parce qu'on construisait le chatbot de zéro, on lui donnait de l'information puis on lui donnait des règles de réponse. Maintenant, avec les IA génératives, on doit faire l'inverse. On part avec un agent qui connaît une panoplie d'informations puis on doit le limiter
à
ne répondre qu'à une boîte.
Ouais,
c'est un exercice qui est presque aussi difficile que de le construire, là, être capable de lui expliquer qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. C'est presque autant que lui dire qu'est-ce qu'il peut dire. Donc, je pourrais imaginer, mais les lois actuelles, justement, pour les atteintes à la réputation s'engageraient. Peut-être qu'est-ce qui peut être intéressant de dire, là, dépendamment de qui s'intéresse au problème, c'est qu'il y a moyen de limiter sa responsabilité en donnant des avis adéquats. Ça, je pense que ça demande une certaine humilité de la part de celui qui met en place le chatbot.
Si on a averti,
ben, tout simplement à dire... Le chatbot, par exemple, dans le cas de Air Canada, ça n'avait pas été fait de cette façon-là, mais de dire le chatbot est là pour vous aider à naviguer l'information du site, mais pourrait donner de l'information fausse ou erronée. Okay. Vous devez vous référer à tel document pour avoir l'information adéquate.
Donc une mise en garde, un disclaimer. Là.
Une mise en garde qui vient limiter finalement la portée du chatbot. C'est pas nécessairement 100%, dépendamment de comment ça a été fait, puis dépendamment du rôle du chatbot, on ne pourra pas nécessairement se dégager. Mais il y a d'autres dispositions. Le Code civil est quand même assez bien fait où, une fois que la personne a été avertie, si elle décide de suivre les conseils, elle engage aussi, elle prend un risque.
C'est ça.
Donc, il y a des façons de le faire. Il y a des cas où ça pourrait être aussi, où les chatbots peuvent être vraiment nuisibles. Ça, on a quelques failles. Il y a des dispositions dans la loi sur la concurrence ou dans le Code criminel pour la fraude, par exemple. Mais il y a des projets de loi qui visent C27, par exemple, qui vise à interdire l'utilisation de l'IA pour des fins nuisible, là, où vraiment il y a certains cas qui sont identifiés. Ça, c'est en discussion depuis longtemps. Donc, il y a des failles, mais certaines ont été identifiées. Pour ce qui est des chatbots, moi, personnellement, j'en vois pas tant que ça. Là, en général, le Code civil, la loi sur la protection du consommateur, il y a la loi sur la concurrence aussi qui peut empêcher de faire des fausses représentations. Ou là, c'est pas pour protéger les clients, c'est pour protéger les industries les unes par rapport aux autres, pour pas donner un avantage. Donc, il y a des dispositions là-dedans aussi. Donc, il y a plusieurs mesures qui s'activent à l'utilisation d'un agent conversationnel.
Vous qui suivez ça d'un œil intéressé, le côté juridique de l'utilisation des intelligences artificielles comme ça, est-ce que vous trouvez qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux par rapport à l'encadrement de ces technologies-là?
Bonne question. On voit beaucoup, là, il y a une effervescence clairement en Europe là, par rapport à l'encadrement des technologies liées à l'intelligence artificielle. Les États-Unis suivent aussi assez bien, je dirais. Ils ont le défi d'être divisés là, au niveau des États, donc c'est difficile d'avoir des politiques uniformes.
Un consensus.
C'est ça. Donc, dans certains cas, ils le font. Je dirais que le Canada, on est un petit peu à la traîne. On regarde ce qui se fait à droite, on regarde ce qui se fait à gauche, puis on discute longtemps avant d'arriver à quelque chose. Mais c'est fragile, si je peux prêcher pour ma paroisse. Je sais qu'il y en a qui trouvent que ça bouge pas vite, mais changer des lois, c'est un jeu de Jenga où on enlève un bloc pour le mettre en haut. Il faut éviter que tout s'écroule. Il y a des dispositions qui sont là depuis longtemps, qui ont été interprétées, qui sont prévisibles parce que justement les tribunaux sont passés dessus, ils les ont expliqués, ils ont décortiqué. Puis là, on va rajouter des nouvelles dispositions. Puis on peut se tromper sur les nouvelles, mettre un nouveau mot, puis faire plus de dommages que de ne pas l'avoir codifié. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. En rétrospective, je pense que dans 10 ans, on va regarder en arrière, puis on va avoir probablement on va l'avoir encadré. Probablement qu'on va avoir oublié l'époque où c'était un peu plus le Far West. Donc, c'est des moments qui passent assez vite, là, comme pour l'Internet, comme pour les DVD, comme à chaque fois qu'il y a un changement technologique, il y a un moment avant qu'on s'adapte. Mais après ça, on oublie qu'il y avait cette période-là. Donc, je pense que ça va venir.
Donc, j'entends que vous êtes assez positif par rapport à l'évolution de l'encadrement légal de technologies d'intelligence artificielle.
J'ai pas le choix. Je comprends. Mais c'est un processus qui est lourd et qui est long. Il faut écouter des acteurs, des gens intéressés. C'est pas quelque chose qui se prend d'un clin d'œil. Sinon, on fait plus de dommages que de bien. Donc, il faut accepter que c'est long. Le Canada, je pense, j'aimerais que ça aille un peu plus vite. J'entends les Joshua Benjo qui disent que il faut agir, il faut faire ça vite. Là, dans le cas des agents conversationnels, je pense que le risque est quand même assez limité. Il y a des zones de l'IA générative qui sont beaucoup plus dangereuses, à mon avis, qui, elles, mériteraient un traitement peut-être plus rapide, là, dans tout ce qui est, par exemple, l'impersonnification, la fraude. Donc, on le voit. En fait, les chatbots peuvent servir à ça, on s'entend, là. On en voit, là, des agents conversationnels qui partent des conversations avec des utilisateurs pour aller chercher de l'information. Donc, les chatbots pourraient être encadrés de cette façon-là. Restera à voir là, comment ça va être. Mais oui, globalement, je suis assez optimiste. Je pense que la technologie, de toute façon, elle est là pour rester et puis qu'on va apprendre à vivre avec. On n'a pas le choix.
Gaspard Petit, merci pour cette sagesse. Je rappelle que vous êtes avocat principal chez Lavery. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
C'était un plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Comme à tous les ans, presque à pareille date, il y a la firme Conseil en informatique NoviPro qui publie son grand rapport qui fait l'état des lieux, le portrait des TI à travers le pays, dans les grandes et les moins grandes entreprises du Canada. Pour nous parler de cette 8e édition de Portrait TI et des tendances informatiques, on accueille Martin Pelletier, le chef initiative stratégique de NoviPro. Bonjour Martin Pelletier.
Ben bonjour Bruno, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Cette année, 8e édition et vous arrivez avec des nouveautés pour cette 8e édition.
Oui, effectivement. NoviPro et Léger sont associés la première fois pour faire le rapport TI, c'est en 2017. Chaque année, c'est d'avoir des insights sur les données, les tendances actuelles en technologie d'information pour la petite, grande et moyenne entreprise canadienne. Cette année, on a voulu peut-être, je dirais pas innover, mais donner une nouvelle saveur, parce que les années passées, c'était beaucoup de stats. tant de pourcents, pas ça, tant de pourcents. Puis là, on faisait une version mais par rapport à l'an passé, c'est une croissance, décroissance. Puis c'est toujours important, parce que c'est là que c'est ça qui permet de pouvoir définir le trend ou la tangente des technologies. On a voulu ajouter cette année à chaque section. Cette année, on couvre 5 sections. Impact et influence des TI, l'environnement économique, les solutions technologiques. La cybersécurité fait toujours et grandement partie de ces choses-là. Les ressources humaines et la modernisation. La nouveauté, c'est que à la fin de chacune des sections, on a des sous-sections qui sont pour expliquer le risque aux entreprises de ne pas vouloir investir ou de vouloir prendre cette tangente-là, les opportunités qu'elles ont. Mais surtout, on veut définir la grande question que je dirais que les dirigeants devraient être en mesure de répondre en lien avec chaque thème. Fait que c'est plus simplement un texte qui fait juste donner des statistiques. On essaie d'amener une twist pour sensibiliser, puis chaque décideur TI ou chaque décideur d'entreprise à la grande question, s'il est capable d'y répondre de façon éclairée, mais ça l'aide de pouvoir le guider. Puis s'il ne peut pas y répondre, ça lui donne une tangente de qu'est-ce qu'il devrait faire dans la prochaine année.
C'est intéressant parce que vous êtes en train de positionner ce rapport-là comme un aide à la décision, là.
Exactement. Au début, on voulait l'avoir beaucoup pour comprendre le marché. En tant qu'entrepreneur ou entreprise, on veut savoir vers où le marché a cette tangente-là, quelles sont les tangentes dans le marché, mais aussi parce que en tant qu'entreprise, on veut investir vers où les besoins des entreprises canadiennes sont. Aujourd'hui, on veut le transformer plus comme un outil, je vais dire éducationnel, mais plus de sensibilisation. Je dirais pas éducationnel, mais plus pour sensibiliser les dirigeants d'entreprise.
Martin, mais là, on va arrêter de titiller les gens parce que je veux qu'on parle du rapport lui-même. Là. Quand tu regardes ça, comment tu as l'impression, évidemment en regardant les chiffres que vous avez aujourd'hui, mais en regardant aussi un peu derrière, comment ça a évolué la perception des dirigeants par rapport à l'infrastructure technologique de leur entreprise?
Bien, il y a 3 grands challenges que les entreprises canadiennes ont cette année. C'est 1, par rapport au budget. 2, la mise en place et le remplacement des technologies, soit en termes d'infrastructure, soit en termes de logiciel. Puis la sécurité, le 3e point, vraiment, là, c'est les 3 challenges, on va dire défis majeurs des entreprises aujourd'hui. Bien que des investissements majeurs sont faits en niveau des technologies d'information comparativement aux années précédentes, reste que, qu'il s'agisse là pour la protection de la donnée, l'attaque au rançon logiciel, les services TI sont toujours au premier rang, c'est le premier répondeur. Puis par contre, on voit malheureusement que 31% perçoivent le département TI de manière négative.
Ben, c'est ça, c'est exactement où j'allais. Avec l'implication des départements TI dans le processus de production, de création des entreprises, est-ce que l'importance des départements TI dans les entreprises au niveau stratégique de l'entreprise, est-ce que ça bouge?
Oui et non. Il reste quand même que 80% des répondants vont dire qu'ils vont impliquer de façon stratégique ou on va dire de façon stratégique vers les orientations, sauf que ce pourcentage-là baisse et diminue à chaque année. Puis le risque pour les entreprises, c'est de percevoir les TI comme simplement un résolveur de problèmes. Ils passent à côté du plein potentiel que les technologies de l'information peuvent l'amener. Donc, d'inclure les leaders en IT ou en TI, je veux dire, dans la planification de l'entreprise, ça va leur permettre de pouvoir joindre et l'entreprise va pouvoir bénéficier de ce que les technologies de l'information peuvent lui livrer pour être encore là plus compétitif et plus performant sur le marché.
Comment les différentes industries perçoivent le rôle des TI? Je présume que ça aussi, dépendamment du secteur où on est, il y a une importance qui est accordée ou pas?
Le secteur financier accorde énormément d'importance au niveau des technologies de l'information. Si on va juste au terme des banques avec les transactions qu'on peut faire à travers nos iPhones et puis ces choses-là. Les grandes entreprises aussi sont très sensibles à ça. On perçoit peut-être plus vers les plus petites entreprises où ce que... les budgets sont souvent plus restreints, ont peut-être de la misère ou ne comprennent peut-être pas comment les technologies d'information peuvent les aider.
Quand on regarde les réponses des décideurs, les 2 principaux investissements technologiques qui vont être faits dans les prochaines années, ça ressemble à quoi?
Un qui est un incontournable, ça reste la cybersécurité. C'est l'endroit où il faut que les entreprises continuent à investir. Les menaces sont en augmentation. Certaines entreprises qui manquent encore d'outils, manquent de formation, puis ils n'ont même pas d'assurance nécessaire pour faire face à ces choses-là. C'est vraiment important que les entreprises prennent plus conscience que jamais que les cybermenaces sont là et ils sont toujours en éternelle évolution.
Et est-ce que tu as l'impression, quand tu regardes la réponse des décideurs, que les patrons des entreprises comprennent l'importance de ce domaine-là? Puis si on compare là, à l'an dernier ou l'année d'avant, as-tu l'impression qu'ils investissent de façon plus sérieuse dans ce domaine-là, la cybersécurité puis la protection des données?
C'est pas tout négatif, là. Il y a quand même 29 % des répondants qui prévoient investir dans les solutions de cybersécurité dans les deux prochaines années, ce qui est une augmentation de 15 % par rapport à l'an prochain. Par contre, il y a un effet contradictoire. Ben, c'est un paradoxe que je dois dire. 90 % des entreprises sont confiantes d'être capables de répondre à une attaque de cybersécurité. Peut-être que des fois, être trop confiant, des fois, c'est la place la plus dangereuse. Fait que sensibiliser, c'est la chose la plus importante à faire pour les entrepreneurs.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui vont avoir des mauvaises surprises. Autre sujet qui touche les TI et qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, et je te félicite parce que normalement, on l'entend dans les deux premières minutes d'une entrevue, l'intelligence artificielle. À quoi ressemble l'intérêt des entreprises de ce côté-là?
Écoute, les données, c'est le carburant des entreprises aujourd'hui. T'sais, la manière dont les résultats, ça va te permettre d'être plus compétitif, d'être plus rentable en analysant, en organisant, en stockant, en exploitant les données de façon concrète, mais surtout de façon, je vais dire, intelligente. Mais le problème dans tout ça, c'est que la plupart des répondants, ils reconnaissent que l'IA est là pour être déjà là ou ils pensent pour avoir un impact. 40 % prévoient d'investir dans l'IA et l'analyse de données avancées dans la prochaine année. Mais le gros risque là-dedans, c'est le gaspillage financier de ressources pour des projets comme tels qui ne livrent pas nécessairement les bénéfices attendus puis une menace potentielle d'échec douteux. Puis je t'explique un peu pourquoi je dis ça. C'est quand tu as eu l'avènement du cloud, le cloud devenait, ou l'info nuagique devenait magique. Et là, on s'en va ad nauseam, les yeux fermés, vers le cloud, la nouvelle révolution du marché. Et puis, beaucoup d'entreprises ont investi beaucoup d'argent, ont perdu beaucoup d'argent pour revenir à une utilisation du cloud de façon plus efficace et efficiente. Mm-hmm. La même chose va arriver avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est là pour rester? Bruno, tu sais tant bien que moi, ça devient... Il y a eu l'Internet, puis je me rappelle, je prends tes mots parce que la dernière fois que je t'ai vu en conférence, tu as dit il y a eu l'événement d'Internet, il y a eu l'événement du web, aujourd'hui il y a l'événement de l'intelligence artificielle, mais surtout l'intelligence artificielle générative, où ce que là maintenant tu peux discuter et converger. Autre risque au niveau des entreprises, c'est que les personnels qui sont non techniques comprennent-ils les risques d'utilisation d'outils que tu ne sais pas nécessairement si la protection de tes données sont faites, en fin de compte. C'est, tu nourris la bête, plus tu converses avec, on va le dire, là, on ne se le cachera pas, avec ChatGPT, tu nourris la bête. Fait que si tu donnes l'information qui devient confidentielle, tu as des risques au niveau des entreprises pour la fuite et la perte de données.
Et là,
du point de vue réputationnel, c'est grave.
Et là, on retombe au problème de la cybersécurité.
On revient à la cybersécurité qui est toujours le point. C'est parce que si l'entreprise ne renforce pas ses mesures de sécurité ou ses formations au niveau de ses employés, les pertes financières sont significatives, mais ton dommage réputationnel est encore plus affecté parce que le coût moyen, la dernière fois, je suis allé dans une conférence aux États-Unis, on parlait de 5 millions US minimum. Ça, c'est le coût que ça coûte pour l'entreprise. Puis souvent, de pouvoir te remettre quand c'est des choses qui sont tellement simples. La formation de tes employés, l'hygiène informatique, t'assurer que tes mises à jour et tes routines sont faites. À partir de ce moment-là, c'est des choses qui sont tellement simples, on dirait des fois que les gens ne comprennent pas.
Autre aspect qu'on touche dans le rapport, puis je trouve ça important de revenir là-dessus, parce que je me souviens que l'année passée, j'avais trouvé ça intéressant. Et cette année encore, en termes de ressources humaines, c'est quoi les principales préoccupations des départements TI aujourd'hui?
Les employés vieillissent, beaucoup s'en vont à la retraite, ont avec eux un savoir qui est difficile des fois à remplacer. Tu veux le ramener avec, tu veux embaucher des gens, tu veux rendre ça de façon attractive, ce qui est très, très, très difficile. Une des statistiques que je trouvais tellement, je dirais pas drôle, mais une des statistiques qui m'a surpris, c'est que les employés qui quittent, c'est 30 % par manque de formation. Fait que 30 %, ça reste, c'est énorme. Fait que d'investir, probablement d'être plus attrayant pour les employés, c'est d'investir en eux, construire l'histoire avec eux, les former sur des technologies qui sont émergentes, innovantes, parce que c'est difficile aujourd'hui. Je me rappelle quand j'ai commencé en informatique, quand j'avais des cheveux de couleur, non pas blanc, on était vraiment dans le détail, le bit and byte. Désolé pour mon anglicisme, là, mais aujourd'hui, c'est le AI, c'est le graphisme. Il faut que ça soit cool. L'écran vert n'attire plus grand jeune.
mais je reviens sur la question du vieillissement de la main-d'œuvre, puis ça, son départ à la retraite ou en changement de carrière. Comment on fait pour faire, parce que je le sais, vous autres, vous êtes au sein, dans certains cas, de la tempête ou des problèmes avec vos clients, vous les aider à se dépatouiller là-dedans. Comment on fait pour assurer le transfert de connaissances?
Il y a deux choses. Faut être certain, pour l'entreprise, elle doit quand même évaluer le coût-bénéfice d'un employé dans un certain rôle. Certains des rôles qui sont répétitifs ou qui apportent peu de valeur, je vous dirais, à l'entreprise, souvent d'externaliser ce service-là informatique va pouvoir permettre de se concentrer sur le cœur de l'entreprise. Puis des entreprises comme Novipro, il y en existe plein d'autres aujourd'hui, là, qui permettent, nous, on est des experts dedans, à partir de ce moment-là, on peut externaliser ces tâches-là, ce qui permet d'éliminer, je te dirais, un peu la menace sur certaines ressources informatiques ou de perte de ressources en informatique.
Martin, en terminant, quand tu regardes l'ensemble des données que vous avez colligées pour cette enquête-là, ça te donne quoi comme perception de la situation des TI dans les entreprises canadiennes?
Ben, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand l'écart entre la perception que les entrepreneurs ou les entreprises ont des TI, des joindre avec la compagnie pour développer une stratégie à long terme de croissance et de développer les bons outils pour être en mesure de supporter cette croissance-là, parce que la donnée des clients l'ont, à partir de ce moment-là, il faut être capable de la transformer. Je pense qu'il va y avoir un push qui va se faire que les entreprises qui n'adhéreront pas à ce positionnement-là d'inclure les technologies d'information avec la vision d'entreprise vont simplement perdre un avantage compétitif avec ceux qui vont vouloir le faire. Puis c'est eux qui vont être les grands gagnants.
Martin Pelletier, chef initiative stratégique chez Novipro, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour répondre à mes questions. Et je rappelle que le rapport, il est disponible à partir du site de Novipro. Novipro.com. Merci. Je ne te dis pas à l'an prochain parce qu'on va se recroiser dans des événements de cybersécurité.
On va sûrement s'en voir bientôt, mais merci à toi, Bruno. Toujours sympathique. J'aime toujours ouvrir la première entrevue avec toi sur notre portrait TI.
Ben, merci pour cette première. Et puis, je te souhaite une bonne série d'entrevues. Salut.
Merci à toi.
Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
Cette semaine à Montréal, le Palais des congrès accueillait l'édition 2024 de la cyberconférence de CyberEcho, le rendez-vous annuel de la communauté de la cybersécurité au Québec. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs parce que cette année encore, j'assurais l'animation d'événements. C'est la troisième année consécutive que j'anime la rencontre. Pour revenir sur ces 3 jours de conférences et d'ateliers avec les joueurs clés de la cybersécurité au Canada, je vous propose cet échange avec ma collègue Catherine Dupont-Gagnon, spécialiste elle-même de la cybersécurité, qui était également présente lors de l'événement. Catherine Dupont-Gagnon, bonjour.
Bonjour.
Catherine, évidemment, toi, tu as un œil de spécialiste de cybersécurité. Qu'est-ce qui t'a marqué de cette édition-ci?
Je pense l'emphase sur l'IA, quoique je suis pas surprise, mais quand même l'emphase, le niveau d'emphase sur lequel ça a été mis cette année, définitivement là, un ajustement versus l'année passée, où est-ce que oui, c'était un sujet, mais c'était pas autant important, c'était pas aussi présent dans toutes les conférences.
Est-ce que tu as quelque chose en particulier qui te marque dans les présentations qui concernaient l'IA ou qui mentionnaient l'IA?
Je suis quand même satisfaite de voir que justement on est moins dans le hype de l'IA puis beaucoup plus dans la prudence puis l'analyse des enjeux qui sont à venir. Souvent dans les conférences de tech, quand on parle d'IA, c'est tellement en mode un peu, on est en fanboy un peu là, sur la situation versus aujourd'hui, c'est vraiment un aspect plus nuancé qui nous est présenté. Puis ça, je suis vraiment appréciative de la chose de, tu sais, oui, ça peut aider à augmenter les efforts de sécurité, mais en même temps, nos attaquants ont accès également à des outils d'IA, puis ils vont s'en servir également pour faciliter leurs attaques. Puis le fait d'explorer justement cette guerre à l'armement-là, si on veut, en fait, avec l'IA, je trouvais que c'est très intéressant. On l'a abordé également avec le point de vue de la désinformation, une conférence hyper intéressante qui avait été présentée par une professeure, entre autres sur justement comment l'IA pouvait augmenter la désinformation, les deepfakes, etc. Fait que beaucoup un emphase sur l'impact, en fait, de l'IA.
Et c'est intéressant parce qu'il y avait certaines présentations, je pense que c'est IBM qui a fait ça, où on, dans la même présentation, on voulait parler de l'intelligence artificielle qui sert pour protéger l'entreprise, mais aussi d'utiliser les outils de l'entreprise pour protéger l'utilisation de l'intelligence artificielle dans une entreprise. Donc, c'est vraiment des deux côtés là où on s'intéresse à la chose. Sinon, dans les présentations que tu as vues qui t'ont marqué, ça ressemble à quoi?
Bien, en fait, justement, tu parlais de la conférence d'IBM avec M. Jeff Krum. C'était honnêtement mon coup de cœur de la conférence, autant par la clarté, le souci de présentation. Ça m'a donné envie d'aller voir sa série YouTube au grand complet, d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu as pensé de la présentation du grand patron des opérations cyber du SCRS?
J'ai trouvé ça intéressant, mais ça me laissait un peu sur ma faim. J'aurais aimé s'en savoir plus. Mais je comprends les enjeux de sécurité nationale qui fait qu'ils peuvent pas aller plus loin. Par contre, c'est définitivement justement le fait de, en fait, la citation qui m'a marquée de cette conférence-là, le fait que la Russie c'était un peu comme un ouragan, puis la Chine était comme le changement climatique en termes de risque. J'ai trouvé que c'est visuellement une excellente façon de présenter les enjeux. Puis encore une fois, c'est j'aurais voulu en savoir plus. J'aimerais ça aller plus loin sur ce genre de sujet-là. Je comprends que dans la réalité de la conférence, on est limité dans le temps aussi, mais définitivement. Un genre de conférence qui fait un peu peur aussi en termes de conséquences à long terme puis les impacts, etc. Donc, super intéressant. Puis, tu sais, je m'intéresse beaucoup à la désinformation. Fait que, définitivement, cet aspect-là, un peu des enjeux démocratiques avec ces menaces étatiques-là, c'était super intéressant à aborder, surtout dans une conférence qui est plus corporative. Fait que d'aller justement parler des enjeux politiques, moi, j'ai trouvé ça que c'est un bel apport.
Tu mentionnes la désinformation. C'était intéressant parce que le patron du SCRS et le patron du Centre canadien de la cybersécurité mentionnaient les deux. Le facteur de la désinformation, comment c'est un élément important pour la sécurité canadienne de combattre ça. J'imagine que toi, ça devait te faire plaisir d'entendre ça des officiels de la cyberdéfense canadienne.
Bien, définitivement. Puis, je me souviens, je pense que c'est la SRC, justement, qui avait mentionné le rapport du World Economic Forum, qui, justement, avait mentionné que la désinformation, c'était le risque numéro un pour l'année à venir, entre autres, parce qu'on est dans une année où est-ce que dans les 2-3 prochaines années, il y a beaucoup d'élections importantes à travers le monde. Oui, on pense aux États-Unis tout de suite, mais il y a d'autres pays dans le monde qui vont être impactés par ça. Fait que de voir, justement, est-ce qu'il va y avoir des montées de mouvements antidémocratiques, est-ce que ça va affecter, justement, les résultats des élections à venir, le chaos potentiel qui peut venir au niveau sociétal de ça. Fait que c'est super important de voir ça. Puis, tu sais, on rajoute des informations plus IA, puis c'est comme le chaos total. C'est la recette parfaite pour faire une grande tempête. Justement, c'était la conférence de Esma Hammer qui mentionnait justement comment est-ce que l'IA pouvait servir à faire des deepfakes avec un enjeu politique. Puis elle avait donné quelques exemples d'ailleurs pendant la conférence où est-ce qu'elle avait elle-même fabriqué des deepfakes. C'était super intéressant. Mais oui, définitivement, je pense qu'il faut qu'on s'y penche. Puis, tu sais, c'est des choses que peut-être que les employeurs pensent moins, mais il faut penser que, tu sais, les employés qui consomment des informations peuvent potentiellement devenir des menaces internes également, de par les enjeux politiques qui sont dans les infrastructures. Puis ça, c'était mentionné justement par notre monsieur là, des services de renseignement que, tu sais, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un se fait convaincre par un mouvement de désinformation puis travaille dans une méga infrastructure importante pour la société? Puis il y a des enjeux, des menaces réelles qui peuvent survenir. Fait qu'il y a de quoi à faire. Il y a de la sensibilisation à faire, je pense, là-dessus. Là.
Sinon, je te demande de façon plus générale, qu'est-ce que tu retiens de cette édition-là?
Je trouve qu'on est bon pour faire des conférences au Québec qui sont plus nuancées, en fait. Pour en avoir vu quelques-unes, pour avoir assisté à quelques-unes, entre autres aux États-Unis, où est-ce que je trouve qu'on va beaucoup dans les hypes, dans les grandeurs, les grands projets. Je trouve que ce qu'on voit ici à Savarico, c'est plus pratico-pratique. J'ai l'impression qu'on est dans la réalité puis moins dans les nuages. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'apprécie également le friendliness, à quel point c'est accessible également. Même si il y a des conférences qui allaient plus loin techniquement, ça restait très accessible comme contenu. Fait que définitivement, là, je pense que autant un directeur qu'un étudiant en cybersécurité a pu avoir l'occasion là, d'aller chercher quelque chose d'intéressant en ce moment chez Cybereco.
Puis, qu'est-ce que ça te dit sur la santé de l'écosystème de la cybersécurité au Québec?
Je pense qu'on a une belle posture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés, qui ont beaucoup d'intérêt. Je le vois dans les discussions également parce que, tu sais, c'est sûr qu'une conférence, c'est pas juste les conférences, hein, c'est les gens qu'on rencontre avec qui on parle. Puis, tu sais, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cet esprit de collaboration-là qui est là. Puis, tu sais, Cybereco, c'est ça aussi, là, c'est un effort de collaboration à la base. C'est ça, la volonté. Puis, je pense que c'est tout à notre avantage pour l'écosystème, du moins, de cybersécurité québécois, qu'on collabore. En fait, qu'on se voit pas comme des compétiteurs de cybersécurité, qu'on est là pour travailler ensemble contre, justement, les différentes menaces.
Catherine Dupont-Gagnon, merci d'avoir donné ton point de vue sur cette conférence. Puis on te retrouve en mai prochain pour un autre de tes billets. Merci beaucoup, puis à très bientôt.
À bientôt.
Il n'y a pas à dire, cette semaine, la Chine plane dans les contenus de cette édition de Mon Carnet. J'aurais peut-être dû appeler ça Mon Carnet édition spéciale Chine, mais bon, peut-être que j'aurais attiré trop l'attention des gens là-bas. Tiens, en passant, si vous nous écoutez de Chine, je vous salue. Alors, pour revenir à mes collègues, cette semaine, Thierry Weber s'intéresse à l'invasion des voitures électriques chinoises qui semblent arriver par milliers dans les ports européens.
Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un faible, oui, pour les contenus proposés par TikTok. Et même depuis la Suisse, je vois passer de plus en plus de contenus publicitaires sur ce réseau social. Il y a un produit que je vois très souvent passer, ce sont les automobiles électriques chinoises. Du coup, je me suis penché sur le sujet et sur cette étrange question. Pourquoi les ports européens sont-ils devenus des parkings géants pour des milliers de voitures électriques chinoises? En effet, depuis quelque temps, une véritable armada de véhicules électriques en provenance de Chine a envahi l'Europe. Mais au lieu de rouler sur nos belles autoroutes et nos routes de montagne, elles préfèrent squatter tranquillement dans les ports. Et pendant ce temps, elle se dort la pilule au soleil européen, attendant de trouver un foyer accueillant. Plus sérieusement, les voitures chinoises ne sont plus des visiteurs rares. En fait, elles sont tellement nombreuses que l'Union européenne commence sérieusement à se gratter la tête, cherchant des moyens de compliquer la vie à ces importations venues de loin. Mais alors, pourquoi cet embouteillage de luxe sur nos quais? D'abord, c'est un vrai casse-tête logistique. Les voitures devraient normalement sortir des cargos, faire un petit tour en camion et arriver chez les concessionnaires. Mais en réalité, elles finissent par rester des mois entiers à prendre la poussière dans les ports. Un porte-parole du port d'Anvers nous confirme que ce problème n'est pas du tout isolé, mais affecte tous les grands ports européens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de chauffeurs pour prendre le volant de ces voitures et les emmener à bon port. Résultat, un goulet d'étranglement monumental. Les constructeurs européens, eux, ne rencontrent pas ce souci. Ils ont suffisamment de poids pour pousser leur logistique à fond, alors que les pauvres petites nouvelles venues de Chine sont coincées à attendre un miracle. Tesla, par contre, semble avoir trouvé la parade. Leur stratégie ? Inonder les ports de leurs propres camions pour que leurs précieuses créations ne restent pas en rade trop longtemps. Parallèlement, il semblerait que certains constructeurs chinois utilisent les ports comme des parkings à long terme. Certaines voitures y resteraient même jusqu'à 18 mois avant de finalement prendre la route. Alors, ces voitures sont-elles des invendus ? Là, juste pour faire joli dans les statistiques d'exportation ? C'est une possibilité. Les chiffres d'exportation sont souvent bien plus élevés que ceux des immatriculations. Mais bon, tant que ce n'est pas prouvé, c'est juste une autre pièce du puzzle très compliqué. En conclusion, cette invasion de voitures chinoises dans les ports européens n'est pas juste une curiosité logistique, c'est un symptôme d'un marché automobile mondial en pleine transformation. Et pendant que les bureaucrates européens et les constructeurs chinois jouent au chat et à la souris, des milliers de voitures attendent patiemment de voir le monde au-delà des quais. Qui sait, peut-être qu'elles apprennent même à parler plusieurs langues européennes pendant leur attente. Voilà une invasion bien éduquée, n'est-ce pas ? Allez, n'oubliez pas de prendre les transports en commun en attendant. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
À Ah ben Thierry, chéché pour ton billet. Thierry qu'on retrouvera dans 2 semaines. Il prend une pause la semaine prochaine. Faut dire qu'il doit se concentrer pour préparer son meilleur de la pub suisse, la grande fête suisse qui s'en vient très bientôt. Alors, on termine cette édition de Mon Carnet cette semaine en compagnie de Stéphane Ricoul, qui, revenu de sa réflexion sur le Costa Rica, a décidé de nous faire réfléchir maintenant sur la grande quantité de données que nous créons, transportons et stockons. En vaut-elle vraiment la peine du point de vue environnemental? Voici la réflexion de Stéphane Ricoul.
Savez-vous ce que représente un pétaoctet? Ça représente 1000 très gros disques durs de 1 téraoctet. Et on s'entend qu'on en stocke des fichiers avec 1 téraoctet. Nous avons donc des kilos, des mégas, des gigas, des téras, des pétas et au-dessus de ça, des hexas, des états et des iotas. Mais je reviens à la question, savez-vous ce que représente un pétaoctet? Voici quelques autres éléments de réponse. 42 pétaoctets. C'est ce que le système de Starlink transmet comme données par jour, en fournissant un accès Internet haut débit à travers le monde via plus de 5000 terminaux de communication optique en espace libre, chacun atteignant des taux de transmission de données de 100 gigabits par seconde et une disponibilité de liaison supérieure à 99%, permettant une couverture Internet mondiale à haut débit. Des chiffres qui ont été présentés par Travis R. Brushears de SpaceX le 30 janvier dernier lors d'une allocution donnée à l'événement Photonics West en Californie. Des chiffres qui donnent le tournis et qui ne s'arrêteront pas de progresser puisqu'actuellement, sans entrer dans le technique, la plupart des satellites Starlink actuellement en orbite utilisent une conception de liaison laser de troisième génération capable de connecter 2 satellites distants de plus de 5400 km et atteindre des débits de transmission allant jusqu'à 200 gigabits par seconde, mais que SpaceX travaille déjà sur la 4e génération. Et plus que ça, le 42 pétaoctets risque de sembler bien petit lorsque le système laser de SpaceX sera installé sur des satellites tiers, puisque c'est l'objectif avoué, semble-t-il. Faisons à présent un retour sur Terre et essayons de visualiser ce que donne ce 42 pétaoctets de données. Et pour cela, je vous invite à voyager avec moi en Mongolie intérieure. La Mongolie intérieure est une région autonome de Chine, située dans le nord du pays au climat froid. Elle couvre une vaste étendue de steppes et de déserts avec une densité de population très faible, d'environ 2 personnes au kilomètre carré. Elle est donc une destination parfaite pour y établir le plus grand centre de données du monde en termes de taille physique. Ce centre de données, c'est celui de China Telecom. Imaginez un peu, 1,2 million de serveurs répartis sur 984 000 mètres carrés au coût de 3 milliards de dollars. Évidemment, aucune information sur sa capacité de stockage n'est divulguée, mais on peut l'imaginer importante. À titre d'exemple, la ville de Paris dispose d'une capacité de stockage de 2,5 pétaoctets, et j'utilise cet exemple car il est un des rares à exister. Difficile de connaître la réelle capacité de stockage en pétaoctets des centres de données d'Amazon, Google ou Microsoft, par exemple. Faisons maintenant une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut et qui est la suivante. Le centre de données de China Telecom est 10 fois plus gros que celui de la ville de Paris et représente environ 50% des données qui transitent chaque jour via des satellites de SpaceX. Donc, 1 million de mètres carrés, j'arrondis, 25 pétaoctets de données. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire une méchante belle consommation d'énergie. Plus de 5 térawatts, si je me fie aux statistiques françaises encore une fois, qui font état d'une consommation moyenne de 5,15 mégawatt-heure d'électricité par mètre carré et par an. Et 5 térawatt-heure correspond presque à la consommation énergétique d'une agglomération comme celle de Montréal, pour vous donner une idée. Et je vous parle pas ici de la consommation d'eau qui se compte en plusieurs milliers de piscines olympiques. Et toute cette belle énergie, est utilisé à moitié pour faire tourner les serveurs informatiques et à près de 40% pour les refroidir. Histoire d'enfoncer le clou un peu plus profond encore, sachez qu'à titre indicatif, on dénombre proche de 5000 centres de données dans le monde, dont plus de 500 sont rassemblés sous le qualificatif Hyperscale, ce dernier désignant ceux de grande taille et détenus par les grandes entreprises. C'est pas compliqué. Les centres de données sont à l'origine de 2% des émissions de gaz à effet de serre, tournant jour et nuit 24/7 pour combler nos besoins d'humains connectés. Alors si nos besoins sont liés à l'éducation, la santé, la recherche et développement, cette consommation d'énergie peut être considérée comme un mal pour un bien. Mais ce doit tout de même d'être optimisé et de nombreuses initiatives vont dans ce sens, entendons-nous bien. Mais si nos besoins sont liés à des vidéos de cascades de bébés chats tout mignons ou de performances de danse parfaitement synchronisées, réalisées par de jeunes amateurs, là, je suis pas certain qu'on tombe dans la catégorie du mal pour un bien. Mais encore une fois, admettons que ça fasse du bien au moral. Après ça, il y a l'utilisation de la donnée comportementale à des fins commerciales ou pire, de manipulation de toute teneur. Et là, SpaceX et son réseau satellite à laser de 42 pétaoctets par jour, excusez-moi, mais est-ce bien nécessaire? Comprenez-moi bien, je ne remets pas en question ici toute cette nécessaire communication à l'échelle planétaire. Je ne serais certainement pas en mesure d'écrire tous mes billets sans elle. Mais j'aimerais qu'il puisse exister deux poids, deux mesures, pour une fois que ce serait une expression positive. Je plaide pour un discernement accru, une distinction entre l'usage des données, pour une belle ligne virtuelle de séparation entre le poids des données utilisées pour le bien de la planète et de sa population, et le poids des données utilisées pour le bien du capitalisme et de sa poignée d'entreprises qui en profitent réellement. Un vœu pieux, me direz-vous, peut-être. Mais je m'emploie à explorer des solutions en ce sens que je partagerai dans un ouvrage à paraître, si l'intérêt d'un éditeur se concrétise, car le défi est de taille, équilibrer notre soif de progrès technologique avec la préservation de notre planète. Un équilibre délicat, mais essentiel, pour l'avenir de notre monde connecté.
Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un énorme merci à mes invités, merci à mes collègues Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber et Stéphane Ricoul pour leur présence cette semaine. Merci à Rask.ai pour l'utilisation de leur technologie pour traduire l'entrevue de l'anglais au français. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une édition spéciale de Mon Carnet. Non, ça sera pas une émission spéciale chinoise, ce sera une émission spéciale qui va porter sur l'IA dans les écoles, dans le milieu de l'enseignement. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien.